إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، نعم، إذا نواصل إن شاء الله تعالى دروسنا فيما يتيسر من شرح الأدب المفرد للإمام البخاري رحمه الله تعالى. مع شرح فضيلة الشيخ محمد ابن السعيد الرسلان حفظه الله تعالى. وقبل أن نواصل إن شاء الله تعالى، نرجع إلى كلام ذكره الشيخ حفظه الله تعالى لابن حزم رحمه الله، وذكر أنه قال: إن المرأة العفيفة ليست هي التي تنكف من نفسها، ولكنها هي التي إذا كفت انكفت. Donc avant de poursuivre inshallah ta'ala, on revient juste sur une parole qui avait été évoquée par le Cheikh Raslan hafidhahullah ta'ala dans le chapitre numéro 87 concernant يعني les péchés que peuvent commettre les servants ou les esclaves. Et il avait rapporté le Cheikh la parole de Ibn Hazm rahimahullah, qui a parlé de la femme al-afifa, qu'on peut traduire par la femme chaste, hein, ou vertueuse. Donc al-afifa, il a dit, c'est pas celle qui se retient d'elle-même, c'est pas celle qui va s'abstenir d'elle-même de tomber dans la fornication par exemple, la débauche ou d'autres désobéissances et péchés. Mais c'est celle « Yallati idha kuffat in kaffat ». Il y en avait traduit, ou j'avais traduit, par « C'est celle qui, lorsque on va s'abstenir avec elle, elle va s'abstenir ». Puis, après avoir parlé, notamment avec le Cheikh Abdel Qadir Junaid, hafidhahullah ta'ala, il m'a fait comprendre que c'était pas exactement ça. طيب. Lui m'a dit يعني, هي التي تسمع الكلام فقد تغير من حالها. تغير من حالها. Il m'a dit c'est la femme al-afifa évoquée par Ibn Hazm rahimahullah ta'ala ici, c'est celle qui va donc écouter les conseils, les exhortations, qui va s'abstenir et qui va changer son comportement, qui va changer son attitude. Qui va changer son attitude par rapport aux exhortations et aux conseils qu'on va lui donner. Donc il va faire un effort, voyez, pour faire partie des femmes, justement, al-afifat, d'accord, vertueuses. Et then, قال العلماء العفة من أهم صفات المرأة المؤمنة الصالحة. فالعفيفة تصون نفسها وتحمي غيرها من الفتن وتربي أبناءها على مكارم الأخلاق وتكون لهم قدوة صالحة. فإن التحلي بهذه الصفة ليس مجرد جبلية تنشأ عليها المرأة أو عادة تكتسبها منذ الصغر، بل هي ثمرة لمجاهدة النفس وأثر لتزكية الروح والتسامي من الرذائل، فهنيئا لمن شرفت نفسها بهذا الخلق الكريم. دونك العفة سي ان كاركتير سي ان اتريبيو، العفة كي في بارتي دي اتريبيو لي بلوز امبورطانت كو دو بوسيدي لا فام. العفة دونك سيل كي العفة اون دي كالي عفيفة، داكور، سي لان دي caractères les plus importants que doit posséder la femme croyante, pieuse, vertueuse. Donc la afifa, c'est qui? C'est celle qui va préserver sa personne, qui va protéger sa personne, mais qui va aussi préserver les autres des tentations, qui va se préserver elle-même et qui donc va préserver également les autres de toute tentation. Vous voyez? De toute débauche, de tout péché. Celle qui va élever ses enfants sur les comportements les plus nobles. C'est elle, l'afifa. Donc elle sera, la femme l'afifa, elle sera pour ses enfants un modèle. Un modèle exemplaire. De piété. Taïe. Donc le fait que la femme possède et se part de cet attribut qui est l'iffa, ce n'est pas juste le fait que c'est une quelque chose qui est inné chez elle. C'est pas ça l'iffa. C'est pas un caractère qui est inné chez la personne. Taïeb. Et qui donc était chez la femme depuis sa naissance. Ou une habitude qu'elle a acquérie depuis son enfance. Non. L'iffa véritable qui a de la valeur auprès d'Allah tabaraka wa ta'ala, c'est le fruit d'un combat contre l'âme. C'est le fait que la femme va lutter contre son âme pour atteindre ce degré d'iffa. C'est ça le vrai iffa. C'est la conséquence de la pureté de l'âme, de la purification plutôt, de l'âme et de l'esprit. C'est le fait que la personne, la femme, va être élevée et au-dessus de tout vice. Ça y est, donc félicitations et bonne annonce à ces femmes-là qui possèdent ce comportement noble. Naam. Thumma, قال المؤلف رحمه الله تعالى باب أدب الخادم. باب أدب الخادم. طيب، فقال الإمام البخاري رحمه الله حدثنا أحمد بن عيسى قال حدثنا عبد الله بن وهب قال أخبرني مخرمة بن بكير عن أبيه قال سمعت يزيد ابن عبد الله ابن قصيط رحمه الله تعالى قال أرسل عبد الله بن عمر غلاما له بذهب أو بورق فأنذر بالصرف فرجع إليه فجلده جلدا وجيعا وقال اذهب فخذ الذي لي ولا تصرفه. فهذا الحديث إسناده حسن. مخرمة ابن بكير صدوق وروايته عن أبيه وجادة، إنما وجده في كتاب أو في كتاب أبيه فحدث به. Donc on va ici traduire le hadith suivant numéro 170 du chapitre 90 intitulé أدب الخادم, c'est-à-dire l'éducation du servant ou de l'esclave. Il dit l'imam al-Bukhari rahimahullah wa ta'ala, Ahmed ibn Isa nous a rapporté et a dit, Abdullah ibn Wahab nous a rapporté et a dit, Makhramatu ibn Bukayr m'a informé selon son père qui a dit, j'ai entendu Yazid ibn Abdullah ibn Qusayt dire, Abdullah ibn Umar. Abdullah ibn Umar, radiallahu anhuma, a envoyé un servant à lui avec de l'or ou de l'argent. Fasarafahu, afin qu'il yani, fasse un change. Afin qu'il fasse un change. Comme on le ferait aujourd'hui avec la monnaie, par exemple. De changer de la monnaie contre de la monnaie. D'accord ? Donc il a chargé de changer cet or ou cet argent. Fa'andara bis-saf. Donc il est parti voir la personne avec qui il devait faire ce change. Mais, andara bis-saf, ça veut dire quoi ? Il a retardé l'échange. Ça veut dire quoi ? Il a donné donc son or ou son argent, plutôt l'or d'Ibn Omar ou l'argent d'Ibn Omar à la personne et il lui a dit par exemple tu me donneras la chose en échange, l'or ou l'argent demain ou après-demain par exemple. Donc il a retardé l'échange. Taïeb. Et ça, c'est interdit en islam, de faire ça. Taïeb, ça, c'est interdit en islam. Le fait de reporter l'échange. Il faut que l'échange soit fait au même moment, lors de la même rencontre. Tu donnes, on te donne. Tu donnes, on te donne. D'accord ? Sinon, ça rentre, tu fais rentrer dedans, sinon, riba, l'intérêt usuraire. Donc il a commis quelque chose d'interdit. Et lorsqu'il est retourné, il est rentré chez Ibn Omar, Ibn Omar l'a puni. Et il a frappé. Il a frappé, yani, il lui a donné donc des coups qui lui ont fait mal. Et il a dit Ibn Omar à son servant, va-t'en et récupère ce qui m'appartient et ne le change pas. D'accord ? Va-t'en, va voir la personne, récupère mon or ou mon argent, et ne fais pas le change. Taïeb ? Non. Donc ce hadith, il est, sa chaîne de transmission, il est bon, elle est bonne, et on a, parmi les rapporteurs, on a Makhrama ibn Bukayr, qui fait partie des rapporteurs, et un qui sont véridiques, même si les narrations qu'il rapporte selon son père sont les narrations qu'on appelle Wijada. Ça veut dire qu'il ne l'a pas entendu de la bouche de son père. Il n'a pas entendu le hadith de la bouche de son père, mais il a trouvé le hadith dans un des écrits de son père. Trouvé un livre ou un écrit de son père dans lequel il y avait écrit ce hadith. Vous voyez ? Donc c'est pas pareil. D'accord ? C'est pas le même degré que celui qui a entendu de la bouche de quelqu'un. C'est pas pareil. Al-Muhim. إذن رجال الإسناد منهم مخرمة بن بكير وهو ابن عبد الله لم يسمع من أبيه إلا حديثا واحدا وأبيه هو بكير ابن عبد الله ابن الأشج المدني ابن الأشج المدني donc مخرمة بن بكير c'est qui il s'appelle ابن عبد الله c'est le fils de عبد الله et il n'a entendu de la bouche de son père qu'un seul hadith donc c'est pas celui-là mais il a entendu un seul hadith de la bouche de son père. Donc son père, c'est Bukayr ibn Abdullah. Bukayr ibn Abdullah al-Ashaj al-Madani. Taïr. Ma'an al-kalimat al-sarf. Ma huwa al-sarf? Al-sarf wa bay'u al-dayn bid-dayn. Bay'u al-dayn bid-dayn. Ou bay'u al-thaman al-mutlaq bi-thaman al-mutlaq. Wa huwa al-darahim wa al-dananir. Ou kulli umlatin nakhdiyatin ra'ijatin bil-aswaq. لا يحل الإنظار في ذلك وإنما لا بد من ها وها ها وها طيب تعطي تعطى ها وها donc le sarf c'est quoi le change donc le change c'est le fait de vendre quelque chose en échange de quelque chose d'autre ici le fait de donner par exemple changer une dette contre une dette une valeur contre une valeur. Hein? Une valeur contre une valeur. Ou de la monnaie contre une autre monnaie, par exemple. Ça, c'est un sarf. Tu fais un sarf. Tu fais un change. voyez, que ce soit des darahim, donc de l'argent, yani la matière, l'argent, des dananir, l'or, les pièces d'or, ou autre monnaie, telle que la monnaie yani, qui sont utilisées aujourd'hui dans les commerces, les marchés, etc. Les euros, hein, et ainsi de suite. Et donc ce change, sauf, il doit se faire, yani, comme on a dit, c'est-à-dire, lors de la même assise, tu viens, tu donnes ta monnaie, et on te donne en échange une monnaie. Vous voyez, ça doit se faire lors de la même rencontre. Tu n'as pas le droit de dire à la personne, tiens, je te donne tant, et demain, tu me donneras tant. Non. Vous voyez, ça c'est interdit. Donc ce servant, qu'est-ce qu'il a fait? Il a reporté l'échange. Il a reporté plutôt la fin de l'échange. Il est tombé donc dans un interdit de l'islam. جلده جلدا وجيعا أي ضربه ضربا مؤلما لما أخطأ الغلام مع ورع ابن عمر لأنه أنذر بالصرف يعني صرف إلى أجل وذلك حرام لا يجوز. Donc Omar ibn Omar pardon رضي الله عنهما, il a donc frappé en lui faisant mal par rapport à l'erreur qu'il a commise vis-à-vis donc de Ibn Omar, vis-à-vis d'abord du droit d'Allah tabarak wa ta'ala, et ensuite d'Ibn Omar, par rapport à la crainte d'Allah qu'il avait, Ibn Omar, par rapport à la piété qu'il avait. Pourquoi? Parce que justement, il a fait preuve de retardement et de report dans son change. D'accord? Et ceci est interdit et totalement prohibé en islam. ما يخذ من الحديث جواز ضرب العبيد للتأديب على الجريمة وجواز المحاسبة الشديدة على قدر شدة الخطأ وعظمه فلا يكون العقاب واحدا. Donc, en tirant de ce hadith, premièrement, la permission de frapper l'esclave pour le punir, pour l'éduquer, à cause d'un péché qu'il a commis, à cause d'un mal, d'une désobéissance qu'il a commise. Donc il est permis donc, de le réprimander, de le sanctionner de manière forte, proportionnellement à la gravité de son erreur, proportionnellement à la gravité de son péché. D'accord? Donc, il n'y a pas qu'un seul degré de punition. Bien sûr, il y a plusieurs degrés de punition, plus le péché et la désobéissance sera grave, et plus la punition sera aussi forte. Al-Qa'ida, anna man amina al-uqubata asa al-adab, wa'alliq sawtaka bihaythu yarahu ahluk. Donc la règle, on l'avait déjà dite, c'est que celui qui se sent et qui se sait à l'abri de la punition, il va avoir un mauvais comportement. Vous voyez ? Celui qui sait qu'il est à l'abri de la punition, de la sanction, du châtiment, eh bien il va se permettre de faire des choses mauvaises qu'il ne ferait pas s'il savait qu'il risque d'être sanctionné, ou puni, ou frappé, ou châtié. Taïm, puis il dit « Wa'alliq sawtaka bihaythu yarahu ahluk » et là, il s'adresse au mari. Il lui dit, mets en évidence ton bâton ou ton fouet de sorte à ce que ta famille le voit. De sorte à ce que ta famille le voit. C'est-à-dire, mets en évidence le fait que tu peux les punir si jamais ils commettent une mauvaise action ou une désobéissance vis-à-vis d'Allah, vis-à-vis hein, de l'islam, ou vis-à-vis du chef de la maison, ou du propriétaire de la maison. Voyez ? Non. L'amour thani, annahu, lemma kanat al-dhunubu la testawi, فكذلك العقاب لا يستوي، فأنت لا تعاقب على الهفوة اليسيرة كما تعاقب على الجريمة الكبيرة. Deuxième chose, c'est quoi? C'est que comme les péchés ne sont pas tous au même niveau de gravité, eh bien également, les punitions ne sont pas tous au même niveau, au même degré. Hein? Les sanctions ne seront pas tous identiques. Donc toi, tu ne vas pas punir quelqu'un pour une simple petite erreur qui n'est pas grave, comme tu vas punir la personne pour un crime, hein, ou un délit immense, d'ailleurs, forcément, tu vas devoir, comment dirais-je, ajuster ta punition en fonction de la gravité de la chose qui a été commise. وهنا لما وقع هذا الأمر وهو التعامل الحرام جلده ابن عمر رضي الله عنهما جلدا وجيعا وهذا من الإحسان إليه كما مر في قول عائشة رضي الله عنها إني لأضرب اليتيم حتى ينبسط. Donc ici lorsque cela s'est produit, hein, cela nous montre que Ibn Omar, lorsqu'il a donc frappé ou fouetté son serviteur et qu'il lui a fait mal, parce qu'il avait commis quelque chose qui était haram dans l'islam, que cela fait partie de la bienfaisance envers lui. Ibn Omar a été bienfaisant envers lui et bienveillant en faisant cela. Comme on l'a vu également dans la parole de Aïcha, radiallahu anha, qui a dit, certes, je frappe l'orphelin jusqu'à ce qu'il se mette par terre. D'ailleurs, pas par méchanceté, mais pour l'éduquer. Parce que justement, tu veux du bien à l'enfant, à la personne. Bien sûr, encore une fois, c'est le dernier des remèdes, comme disent les ulama. Le fait de frapper ou de corriger, c'est le dernier des remèdes. D'abord, on doit parler, on doit exhorter, on doit conseiller, etc. Et si malgré toutes les étapes qu'il faut, par lesquelles il convient de passer, la personne s'entête et s'obstine, dans ce cas-là, bien sûr, on pourra avoir recours aux punitions. Et au coup. Voyez. Et même le fait de frapper, cela est limité par des conditions également. Hein? Ce n'est pas. Tu ne vas pas boxer la personne jusqu'au sang. C'est pas ça. Il y a des conditions. D'accord? Il ne faut pas que ce soit des coups qui sont mubarrih, c'est-à-dire qui vont laisser des traces sur la personne. Par exemple, c'est pas ça. Taïeb. والضرب له قواعد وله قانون. لا تضرب فوق عشرة أصوات تأديبا. Il dit donc, justement, الضرب, le fait de frapper, eh bien, comporte des règles. Comporte des règles. Parmi ces règles, ne frappe pas et ne donne pas plus de 10 coups. Plus de 10 coups. D'accord ? وَأَيْضًا يَنْبَغِي أَنْ يَجْتَنِبَ الْوَجْهِ وَمَا يُمْكِنْ أَنْ يَكُونَ مُوجِعًا لِأَنَّ الْغَرَضَ مِنْ ذَلِكَ هُوَ التَّأْدِيبِ وَمَنْ يَعْتَبَرَ بِالْكَلَامِ وَالزَّجَرِ كَمَنْ لَهُ حَسَاسِيَّةٌ عِنْدَ النَّظَرِ فَبَعْضُهُمْ قَدْ يَتَّعِذُ ويعتبر بمجرد النظر فإذا أحد إليه البصر أو أشاح عنه أو لم يكلمه اتعظ واعتبر فذلك وأما من كان ثخين الجبدة فهذا يحتاج إلى مرزبة ولكن من غير مجاوزة للحد. Et également parmi les règles du fait de sanctionner et de punir en frappant, d'éduquer, il faut bien sûr ne pas frapper le visage. Et ne pas donner des coups et éviter les coups qui font mal. Éviter les coups qui font mal. Parce que l'objectif de cela, c'est l'éducation, c'est l'instruction, c'est la correction. D'accord ? C'est pour corriger la personne, pour l'améliorer, pour la réformer. C'est pas pour la blesser. Voyez ? Donc, celui qui écoute, qui prend en compte les conseils, qui prend en compte les exhortations, les réprimandes, etc. Comme celui, des fois, tu vois, il y a des personnes ou des enfants qui sont sensibles rien qu'au regard. Tu n'as même pas besoin de parler, juste un simple regard. L'enfant, il a compris qu'il faut qu'il arrête. Tu vois ? Un simple regard, des fois, la personne, entre guillemets, abdique et accepte, voyez, d'arrêter ce qu'elle est en train de faire. Donc certains, ils vont accepter rien qu'avec un regard. Il te suffit de lancer un regard perçant, expressif, ou des fois il te suffit de tourner le dos à la personne pour lui faire comprendre ton mécontentement, ou le fait de ne plus parler à la personne, tu n'adresses plus la parole à la personne, tu sais que cela, Yanni, fonctionne chez certains. La personne, lorsqu'elle va voir que son père ou sa mère, Yanni, ne lui parle plus, ou tourne le dos, ou est froid avec lui ou avec elle, eh bien, elle va se réformer, elle va s'améliorer, elle va tirer des leçons, etc. Elle va profiter de ses rappels verbaux ou au niveau du comportement, de l'attitude. Mais il y en a d'autres, il dit les cheikh, ils ont la peau dure. Hein? Ils ont la peau dure ou la tête dure, comme on dit. Mais ceux qui ont la tête dure, il dit, ceux-là, ils ont besoin d'une massue. Vous voyez, c'est une image. Hein? C'est une image. Ils ont besoin d'une mirzaba. Mirzaba, c'est quoi? C'est une massue. Vous voyez, une masse. C'est-à-dire, ils ont besoin de coups physiques. Vous voyez, encore une fois, ça, c'est le dernier des remèdes. C'est la dernière étape, ça. Avant, elle, il faut passer, avant cette étape-là, il faudra passer par les premières étapes. Hein? Et même lorsqu'on va avoir recours à cette étape-là, il ne faudra pas dépasser les limites. Les limites qu'Allah Jalla wa'ala donc a établi à propos de cela. Taïeb. Naam. Thumma qala l'imam al-Bukhari rahimahullah. حدثنا محمد بن سلام قال أخبرنا أبو معاوية عن الأعمش عن إبراهيم التيمي عن أبيه عن أبي مسعود قال كنت أضرب غلاما لي فسمعت من خلفي صوتا اعلم أبا مسعود لله أقدر عليك منك عليه فالتفت فإذا هو رسول الله صلى الله عليه وسلم قلت يا رسول الله فهو حر لوجه الله فقال أما لو لم تفعل لمستك النار أو للفحتك النار أو للفحتك النار. هذا الحديث أخرجه أيضا مسلم في صحيحه. On passe au hadith suivant, inshallah, le hadith numéro 171. Il dit, Al-Bukhari, Muhammad ibn Sallam nous a rapporté et a dit, Abu Muawiyah nous a informé, selon l'A'mash, selon Ibrahim al-Taymi, rahimahullah, selon son père, selon Abi Mas'ud, ne pas confondre avec Ibn Mas'ud, le compagnon, là c'est Abu Mas'ud, qui est un tabi'i, qui a dit, j'étais en train de frapper mon servant, ou un de mes servants. Quand tout à coup, j'ai entendu derrière moi une voix qui m'a dit, sache, Abu Mas'ud, qu'Allah a plus de pouvoir sur toi que toi sur lui. Qu'Allah a plus de pouvoir sur toi que toi sur lui. Puis il dit, je me suis retourné et je m'aperçus que c'était le messager d'Allah. Sallallahu alayhi wa sallam. Et j'ai dit, ô messager d'Allah, il est libre pour le visage d'Allah. C'est-à-dire, quand de suite il s'est aperçu que c'était le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, qui lui avait fait cette remontrance et cette désapprobation pour le fait qu'il était en train de frapper son esclave, il l'a libéré de suite. Il a affranchi son esclave pour qu'Allah jalla wa ala lui pardonne, tayyib, en espérant que Allah subhanahu wa ta'ala accepte son action. Et là, le prophète, qu'est-ce qu'il lui a dit, subhanallah? Il lui a dit, certes, si tu n'avais pas fait cela, le feu t'aurait touché. Le feu t'aurait touché ou le feu t'aurait brûlé. Les flammes de l'enfer t'auraient brûlé. Non. Donc ce hadith, rapporté par Muslim, également dans son authentique. ورجال الإسناد أبيه أي أبو إبراهيم التيمي هو يزيد وهو الثقة وأبو مسعود هو البدري نزل بدرا ولم يشهد بدرا لم يشهد الغزوة وسمي بالبدري لأنه نزل بدرا. Donc parmi les rapporteurs de hadith, on a donc Abu, le père de Ibrahim al-Taymi. Ibrahim al-Taymi fait partie des plus grands tabi'in qui rapporte ce hadith de son père qui s'appelle Yazid. Et qui est un des rapporteurs fiyam de hadith, qui a rapporté ce hadith d'Abu Mas'ud, à ne pas confondre avec Ibn Mas'ud, encore une fois. Abu Mas'ud, Al-Badri. Et c'est pas parce qu'il s'appelle Al-Badri qu'il a participé à la bataille de Badr. Non, il n'a pas participé à la bataille de Badr, mais on l'appelle comme ça car il habitait à justement cet endroit-là, Tayyib, où il a eu cette bataille-là. C'est pour ça qu'on l'appelle Al-Badri. Non. Ma'an al-kalimat fasami'tu min khalfi sawtan. Ay atabihi munakkaran sawtan. Li'annahu lam ya'rif as-sawta min shiddati al-ghadab. Ka'annahu lam yumayyiz nabrata as-sawt falam ya'rif as-sawt. Donc il dit ici, Abu Mas'ud, rahimahullah, j'ai entendu derrière moi une voix. Donc il n'a pas dit la voix ou la voix de un tel. Il a dit une voix. Ça veut dire qu'il n'a pas reconnu la voix. D'accord ? Il n'a pas reconnu la voix, dit le cheikh, à cause de sa colère. Tellement il était en colère, il n'a même pas reconnu la voix du prophète. Alayhi salat wa salam. Il n'a pas reconnu l'intonation ou le timbre de voix du messager. Sallallahu alayhi wa sallam. La parole du prophète, lorsqu'il lui dit l'Allah. Vous remarquez ici que le prophète, il n'a pas dit Allah. Il a dit l'Allah, un lème devant, l'Allah. Donc ça, c'est dans la langue arabe, quand on a un lème qui se rajoute ici au début, c'est pour exprimer une insistance, un appui dans la parole, le fait d'insister sur la parole. L'Allah, certes Allah, si on veut traduire vraiment le sens, certes Allah, a plus de pouvoir que toi sur lui. C'est-à-dire que la force d'Allah, la puissance d'Allah tabarak wa ta'ala sur toi, elle est plus grande que ta force sur cet esclave. Voyez? Wa huwa hurrun li wajhillah. Lam yajid mandouhatan min an yu'tiqahu. Donc il lui a dit, lorsqu'il a entendu ça du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, ô messager d'Allah, certes, il est libre pour le visage d'Allah. Ça veut dire qu'à ce moment-là, Abu Mas'ud n'a trouvé comme seule possibilité que d'affranchir cet esclave pour justement s'affranchir lui-même du péché qu'il est en train de faire. Pour s'affranchir lui-même du péché qu'il est en train de faire. Wa qawluhu la lafahatka an-nar ay la akhadhaka lahibuha ou la ahraqatka an-nar. Donc l'expression ici, le verbe lafahat, hein, D'accord? Donc, la fahat, ça veut dire quoi ici? Et akhadatk. Les flammes t'auraient pris. Ou les flammes ou le feu t'auraient brûlé. C'est ça le sens de la fahat. جيد وما يؤخذ من الحديث اولا الرفق بالمملوك qu'est-ce qu'on tient maintenant de ce hadith طيب premièrement la douceur envers l'esclave la douceur envers l'esclave جيد la douceur la tendresse, la gentillesse. الثاني الوعظ والتنبيه على استعمال العفو وكظم الغيظ مع الحكم بما ينبغي أن يحكم به فعلى الإنسان أن يعامل الناس بما يحب أن يعاملوه به وأيضا بما يحب أن يعامله الله به كما قال صلى الله عليه وسلم من لا يرحم لا يرحم إنما يرحم الله من عباده الرحماء الراحمون يرحمهم الرحمن فعلى حسب ما تعامل الناس يعاملك الله تبارك وتعالى deuxième chose l'exhortation la sensibilisation à l'utilisation du pardon à pardonner à ravaler sa colère à contenir sa colère طيب بما ينبغي أن يحكم به donc la personne elle doit traiter les gens comme elle aimerait qu'ils la traitent la personne doit traiter les gens doit se comporter avec les gens comme elle aimerait que les gens se comportent avec elle et également elle doit se comporter avec les gens comme elle aimerait qu'Allah tabarak wa ta'ala se comporte avec elle. Voyez? Naam. Elle doit traiter les gens comme elle aimerait qu'Allah la traite. Comme il dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, celui qui ne fait pas preuve de bienveillance, Allah ne sera pas bienveillant envers lui. Il dit également le prophète sallallahu alayhi wa sallam, certes, Allah jalla wa ala fait preuve de bienveillance envers les bienveillants. Il dit également le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ar-rahimuna, ceux qui font preuve de bienveillance, ar-rahman est bienveillant envers eux. Ça veut dire qu'en fonction de ton attitude vis-à-vis des gens, Allah Jalla wa Ala adaptera son attitude ou adaptera le traitement qu'il a avec toi. D'accord? Thalithan, ajma'a al-muslimun ala adami wujub al-itq بضرب العبيد وإنما هذا مندوب ليكون كفارة للذنب وإزالة لإثم الظلم الذي وقع عليه لذلك بادر به Troisièmement, les musulmans sont unanimes sur le fait qu'il n'est pas obligatoire d'affranchir l'esclave si on le fera. Ce n'est pas une obligation. Ce n'est pas parce que tu as frappé ton esclave que tu es obligé de la franchir. Mais cela est fortement recommandé afin que cela soit une expiation pour le péché et afin de faire disparaître le péché de l'injustice que tu as commis. C'est pour cela ici, on voit que Abu Mas'ud, radiallahu anhu, s'était empressé donc de libérer son esclave afin d'affranchir et d'expier le péché qu'il avait commis injustement. رابعا لا يجوز لشخص أن يؤذي غيره بضرب أو شتم أو أي نوع من أنواع الأذى ولو كان مملوكا له فإن تجاوز التأديب الحد المأذون فيه شرعا صار فاعله متعرضا للعقوبة، كهذا الذي ضرب خادمة، فذكره النبي صلى الله عليه وسلم أن الظالم تسبب في العقوبة لنفسه، وأما ضرب التأديب إذا لزم الأمر فلا جناح عليه. Quatrièmement, il n'est pas permis à la personne donc de faire du mal aux autres, de nuire aux autres, que ce soit en les frappant ou en les insultant ou quel que soit le type de nuisance. Même si c'est un esclave, même si c'est un esclave, voyez. Et donc, si la punition dépasse la limite autorisée par l'islam, eh bien, celui qui commet cela va s'exposer, elle aussi, à la punition et au châtiment. Comme Abu Mas'ud, lorsqu'il a été injuste envers son esclave, et que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, donc, il lui a dit que celui qui est injuste, en vérité, il va causer sa propre perte, il va causer son propre châtiment à lui. D'accord ? Mais quant au fait de frapper pour corriger et pour punir et pour réformer lorsque besoin s'en fait sentir, lorsque cela devient nécessaire, dans ce cas-là, dans ces cas bien précis et bien délimités par la législation d'Allah tabaraka wa ta'ala, il n'y a aucun mal, aucun péché à le faire. خامسا دليل على رقة قلوب أصحاب رسول الله عليهم الصلاة والسلام أو عليه الصلاة والسلام ورضي الله عنهم ومسارعتهم إلى فك رقبة من النار، فإن أبا مسعود لما سمع النبي صلى الله عليه وسلم قال له ما قال بادر إلى عتق الغلام الذي ضربه فقال هو حر لوجه الله، فأجابه النبي صلى الله عليه وسلم وهو الذي لا ينطق عن الهوى قال أما لو لم تفعل لمستك النار أو للفحتك النار، وهذا لا يقوله إلا بوحي من الله تبارك وتعالى. Cinquièmement, on a dans ce hadith la preuve du bon cœur des compagnons du prophète صلى الله عليه وسلم, qu'ils avaient des cœurs purs et qu'ils se hâtaient et se précipitaient à être épargnés du feu de l'enfer. Donc Abu Mas'ud, lorsqu'il a entendu le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, qui lui a dit ce qu'il lui a dit, il s'est dépêché et s'est empressé d'affranchir cet esclave donc qu'il avait frappé injustement, en disant « Il est libre pour le visage d'Allah tabarak wa ta'ala ». Et le prophète, qu'est-ce qu'il lui a répondu? Et c'est le prophète, vous savez, qui ne parle pas yani, sous l'effet de la passion, hein, mais il ne parle que par révélation, il parle par révélation d'Allah tabarak wa ta'ala ici, dans ce hadith, il dit « Certes, si tu ne l'avais pas fait, le feu t'aurait touché ou le feu t'aurait brûlé ». D'accord ? Et cela, donc, il ne peut dire cela, ce genre de phrase, il ne peut la dire que par révélation venant d'Allah, tabarak wa ta'ala. Taïeb ? Naam. Idhan, qala al-shaykh Zayd al-Madkhali, rahimahullah ta'ala, qala, had al-ahadith dalil ala anna lissayyid aw al-malik أن يؤدب مملوكه بما يراه رادعا له عن فعل شر كالسرقة ونحوها مما فيه ضرر يتعلق بأمر الدين أو يتعلق بسوء التصرف فيما يؤتمن عليه من مال ونحوه. يجي الشيخ زيد المدخلي رحمه الله تعالى en tire de ce hadith, première chose, la preuve que le maître ou le maître ou le propriétaire d'un esclave a le droit de châtier ou de punir son esclave parce qu'il voit comme un moyen pour le décourager de faire le mal, tel que le fait de voler ou autre. Taïeb, parmi les choses qui sont relatives aux affaires de la religion ou le fait de mal gérer et de mal disposer des choses qu'on lui a confiées, telles que l'argent, les biens matériels ou autres. Premièrement, وقال الشيخ فالبدار البدار أيها المسلم إلى عتق رقبتك من النار وذلك بالحرص على فعل الطاعات وترك المعاصي وعلى الإنسان يعتبر بقدرة الله عليه فلا يجوز له أن يظلم غيره لا قريبا ولا بعيدا. Et enfin, inshallah, pour finir, par rapport au second hadith, on a vu l'histoire de Abu Mas'ud, hein? Dit le Cheikh, par conséquent, dépêchons-nous, ô musulmans, d'affranchir nos personnes du feu de l'enfer. Lorsque tu vois que tu as commis un péché, lorsque tu as commis quelque chose de mal, et tu le sais, tu en es conscient, dépêche-toi de demander pardon. Dépêche-toi de t'affranchir du feu de l'enfer, car tu ne sais pas quand est-ce que tu vas quitter ce monde. Tu ne sais pas quand est-ce que, ou dans quelle position, dans quel état tu vas quitter ce monde. Donc dépêche-toi d'affranchir ta personne du feu de l'enfer. Et cela comment? Eh bien en veillant à obéir à Allah tabarak wa ta'ala et à délaisser les interdits d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc la personne, elle doit prendre conscience de la puissance d'Allah tabarak wa ta'ala et il ne lui est pas permis par conséquent d'être injuste envers autrui, d'être injuste envers les autres, que cet autre soit un proche à toi ou quelqu'un qui est éloigné de toi, peu importe. Taïeb, il y en a certains qui vont être justes avec les proches, mais avec les autres, ceux qui sont qui font pas partie de leurs proches, ils vont être injustes envers eux. Ils vont mentir, ils vont voler, ils vont les trahir, ils vont les tromper, et ils seront uniquement justes et équitables avec leurs proches. Non, ça c'est une erreur. Le musulman, il est juste avec tout le monde. Il est juste avec tout le monde, même si c'est à ses dépens ou aux dépens de ses proches. Naam. Naktafi bihada, inshallah ta'ala. Wa l'ilmu indallah wa akhiru da'wana. Ani alhamdulillahi rabbil alameen. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وسلم تسليما جزاكم الله خيرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته